Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Menachel Zochno Livracha. Alors la question de Aaron, qui nous dit que dans la paracha de la semaine passée, Berkotai, donc on a quelques bénédictions et quelques... peu de bénédictions, mais de qualité, et beaucoup de malédictions, 48 malédictions, 49 malédictions, qui dépendent, comme commence la paracha, si vous allez dans mes chouka, c'est une loi qui n'a pas de sens, vet mitzvotai tishmeru, et vous ferez mes mitzvot. Les commentateurs, déjà 2000 ans, posent la question, Rachid les ramène. Si, que signifie ce mot imbrokotai? Si vous allez dans mes lois qui n'ont pas de sens, elles sont incluses dans les mitzvot, c'est marqué dans la fin du verset, et vous ferez mes mitzvot. Dans les mitzvot, il y a mitzvot qui ont sens, mitzvot qui n'ont pas de sens, il y a de tout. Donc c'est quoi ce début de la paracha? Ils disent imtiu amelim batora. C'est quoi amelim batora? Vous peinerez en Torah. Effectivement, ça n'a pas tellement de sens. Parce qu'on peut comprendre qu'on étudie la Torah pour connaître la volonté divine, d'accord? Mais pourquoi peiner? Pourquoi peiner? C'est très profond, parce que quand on peine, alors on a une concentration beaucoup plus grande dans l'objet de notre réflexion, qui fait que tout notre être est affairé à comprendre les paroles de Torah. Et là, il y a un branchement avec la Torah beaucoup plus fort. Et la Torah, c'est la volonté de Dieu. Donc il y a un branchement avec la volonté de Dieu beaucoup plus grand, qui est la source la plus grande de bénédictions sur Terre. Ça amène un flux de lumière extraordinaire. Plus on étudie avec acharnement, avec difficulté, on se casse la tête, plus le feedback de lumière, il est énorme. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, l'auteur de Misat Yesharim, un des grands kabbalistes il y a 350 ans environ, écrit, donc il y a un livre très connu, Misat Yesharim, à la fin, dans cette certaine édition, il y a un petit livre qui s'appelle Priets Chaim, le fruit de l'arbre de la vie. Là-bas, il parle de la valeur de l'étude de la Torah. Et il dit que la Torah est comparée par Chazal, par nos sages de même Rabbani, à un charbon. Vous savez, le charbon, quand on fait des grillades, d'accord, donc tu as des charbons, ils sont incandescents, et puis au bout d'un moment, ils commencent un peu à s'éteindre. En fait, dedans, ils sont chauds encore, il ne faut pas les toucher, mais ils sont recouverts d'une sorte de couche de poussière, comme ça, de cendres. Ils chauffent, mais pas beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'on fait pour que, de nouveau, le feu prenne? On souffle. Un soufflet, ou comme ça, avec truc. Aujourd'hui, ils ont des ventilateurs dans les marchés, d'accord, pour un ventilateur. Et le charbon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Tac, la flamme, elle repart. Il dit la Torah, c'est comme ça. La Torah, quand on regarde l'extérieur, c'est caché. Il y a une couche de poussière, comme ça, de cendre. C'est noir, gris. Et si on étudie, et on commence maintenant à frotter nos méninges, on les esquinte, d'accord, pour comprendre ce qu'il y a. On refait, et tac, et comme ça, tac, on rentre en profondeur. Tout à coup, il y a un feu qui sort, extraordinaire. Comme dit le Rav Chaim HaKadosh, Rabbi Hamid Inter, un des grands sages aussi, il y a 250 ans, il devait être Mashiach, une sainteté extraordinaire. Il écrit que si les êtres humains se rendaient compte de la douceur de la Torah, véritablement, ils deviendraient complètement fous. Complètement fous. C'est pour bientôt. Mashiach vient très bientôt, on va plonger dans la Torah Bezrat Hashem. Je ne ferai pas un cours maintenant sur Mashiach, d'accord, on sait qu'il arrive très bientôt. Il arrive bientôt, voilà, il arrive bientôt. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça la mitzvah qui est mentionnée par Torah, imbechogotai telechu. Si vous allez dans mes voies, dans mes lois qui n'ont pas de sens, ça veut dire yot amelim batora, de peiner en Torah. Il y a une suite de bénédictions. Et si on ne le fait pas, il y a une suite de malédictions terribles. Dans la bénédiction, c'est marqué que 5 d'entre vous feront fuir une centaine d'ennemis. Et 100 d'entre vous feront fuir 10 000 ennemis. La question qui se pose tout de suite, le rapport il n'est pas équitable. 5 font fuir 100, ça veut dire 1 fait fuir 20, 1 sur 20. Alors que 100 font fuir 10 000, c'est fois 100. 1 fait fuir 100. C'est pas normal, décide. Ou un fait fuir 20, ou un fait fuir 100. Dit Rashi, c'est différent. Peu de gens qui lisent la Torah que beaucoup de gens qui lisent la Torah. Peu, 5, ils font fuir 20. 100, ils font fuir 10 000. La Gemara dans ma côte, elle dit, j'étais ça, ce jeune homme-là dans mon bureau il y a quelques minutes, ma côte, page 10, à dire Rabbi Shua ben Levi, Maïdirti, que signifie ce verset, Ayu omdot raglenu bisharech, Ayu omdot raglenu bisharech Yerushalayim. Se tenaient nos jambes debout dans tes portails, Jérusalem. Dit la Gemara, grâce à quoi nos gens se tenaient debout dans le combat contre les ennemis ? T'as l'ennemi qui tire, t'as peur, t'as envie de partir, tu tiens bon, tu te bats et tu gagnes. Grâce à quoi ? Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudie la Torah. Ça veut dire que le critère de la victoire, il est combien il y a de hamal, combien de peines d'études de Torah. C'est ça qui fixe si oui ou non on gagne la guerre. Ta question c'était ?
Armée par armée.
Armée par armée.
Est-ce que la Torah peut remplacer l'armée ?
Actuellement, si un jour, un beau jour, c'est en train de se passer très lentement, d'accord. J'ai fait le compte hier, j'ai donné un cours à des jeunes filles, j'aurais montré qu'elles devaient décider qu'est-ce qu'elles font dans leur vie, comme ci, comme ça, rentrer en France, en Israël, faire un cursus plutôt Torah, un cursus plutôt études, etc. Et j'aurais dit ce que je dis à vous aussi. C'est écrit dans les Tehilim. Le roi David, il dit comme les flèches dans la main de l'archer, ainsi sont les jours de la jeunesse. Quelqu'un fait ici un peu du tir à l'arc ? Ouais, un peu. Quand on tire, qu'est-ce qui se passe ? On fait pression comme ça et l'arc il tremble un peu. Alors on met des stabilisateurs. Une sorte de, comme ça, des trucs qui sortent avec des poids, comme ça, et ça stabilise. Tu trembles moins. Où est le problème ? Tremble. Parce que tu trembles un millimètre que ça va... Tu as raté la cible. Eh bien oui. Un millimètre ici peut signifier hors de la cible. Comme ça sont les jours de la jeunesse. Un jeune, on appelle ça un bachour. Un bachour ou une bachoura pour une fille. C'est quoi un bachour ? Ça vient de la racine livhor, qui signifie choisir. Un bachour, c'est un choisisseur. Âge de 18, 20, 22 ans, c'est la Pâque tournante, tu peux choisir. La fac, la yeshiva, le boulot, kasher, pas kasher, Israël, France, mi-temps, tout Torah, qui, quoi, comment, donc, où. Toutes les options sont ouvertes. Et des fois, il y a un millimètre entre une option et une autre. Ah, c'est pas si grave. On met le stabilisateur pour toucher la cible qui est dans 20 mètres. Là, la cible, elle est Olam Abba. Ça veut dire infini. Un millimètre de déviation, c'est un impact. Infini de différence. Et parlons pas dans l'infini, parce qu'on ne connaît pas l'infini. Nous parlons dans le fini. La moyenne de natalité dans le monde orthodoxe en Israël est 7,2 enfants. Pour 1,7 dans le monde non religieux. Une famille moyenne ici... Dans un quartier orthodoxe, elle fait 7,2 enfants. C'est pas énorme. Demandez autour de vous, toutes les familles ici. Ils sont. Alors, il y en a qui n'ont pas trop 3, 4, 5, mais vous qui ont 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a un qui a 18, 21, d'accord. C'est... bon, c'est un peu exceptionnel. Ah ouais.
21.
Ah ouais. Et une copine d'une de mes filles, ils sont 21 dans la famille. Bon, 7,2. Donc, machin, vous allez vous marier, vous ouvrirez dans une orthodoxe ici en Jérusalem, en Israël, je vous le souhaite à vous tous. Donc, vous aurez en moyenne 7,2 enfants, en moyenne, parce que celui qui a 7,2 enfants, c'est un misken. Il fait quoi du 0,2 ? C'est embêtant, 1,2 enfants. Il y aura une moyenne de 7,2 enfants. Ça prend combien de temps pour faire 7,2 enfants ? En moyenne, 20 ans. OK ? Dans 20 ans, vous avez 7,2 enfants en moyenne. Maintenant, dans 40 ans, les 7,2, ils vont faire aussi 7,2 en moyenne. Donc ça fait combien ?
14,15.
49 et 50. Voilà, avec le 0,2, 50. 50 enfants en moyenne, vous avez 50 petits-enfants en moyenne dans 40 ans. Ça va extrêmement vite. Donc dans 60 ans, les 50 petits-enfants feront aussi 7,2 enfants. Ça fait combien ? Jordan, ça nous aider un peu. Je crois que t'es bon en maths. 350. Très bien. Dans 80 ans, fois 7
Plus de 2000.
Bien oui, bien sûr, beaucoup plus que 2000.
2300.
2450. 2450. Avec le virgule 2, 2500. Ça, c'est 80 ans. Dans un siècle.
On peut reformer.
Attends, on va faire le calcul lentement. Dans un siècle, 2500 x 7, c'est facile. 14 000 pour les 2000, plus 3500, ça fait 17 500 avec virgule 2, 18 000.
Vous partez du point qu'il n'y en a aucun qui quitte la Torah. Hein.
Ouais, en moyenne, c'est moyen. Ouais. Non, mais c'est en Israël, c'est bon ça.
Justement, on va faire en Israël, c'est pas bon.
Regarde, ceux qui quittent la Torah, t'as au moins la même quantité qui revient, d'autres qui font tchouva. Donc on reste dans le monde orthodoxe, dans la même moyenne. D'accord. Donc on est maintenant dans un siècle 18 000. Dans 120 ans
oh,
bah 18 000 fois 7, messieurs, facile. Ça fait environ 110 000. Bon, je fais souvent le cours, donc j'en ai par cœur les chiffres, je crois pas que je suis si bon. Dans 140 ans, 800 000. Jérusalem. 800 000 habitants. 160 ans, on n'en parle plus, c'est déjà... Donc ici, à l'Eshiva, là, vous êtes combien? C'est une quinzaine, d'accord? On a déjà... On est 4-5 millions, plus, combien? Beaucoup plus. 7-8 millions, tout Israël. Tout Israël dans son 40 ans. Maintenant, tu choisis la vérité, le juste. Alors, tu en as 800 000 qui sont la vérité. Tu choisis 1 mm en moins. Tu as 800 000 qui sont paumés dans la mouise, à côté de la plaque. C'est terrifiant. Terrifiant, le choix. Terrifiant. Et tout est pris en compte. Chaque petit mouvement qu'on fait, chaque action, chaque chose, ça a un impact dans la descendance. C'est clair, c'est clair. Alors, repose ta question. Ah oui, donc ici en Israël. Alors, c'est clair. Il y avait 200 familles religieuses orthodoxes lors de la création de l'État. 66 ans plus tard, il y a deux mois, il y a eu 1 million d'orthodoxes environ qui ont créé Shema Israël ici à Jérusalem. Une projection facile nous fait comprendre que dans 10, 15, 20 ans, les orthodoxes sont majoritaires en Israël. Dans 50 ans, il n'y aura plus aucun non-religieux. Donc, il est clair que le monde de la Torah, la force spirituelle du peuple d'Israël augmente. Et je dirais, c'est intéressant de voir que parallèlement, tu vois ce qui se passe. Les gens me disent, oui, mais sans armée, comment on va faire? T'as raison. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on est tous kadosh. Israël, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses très très impures aussi, hélas, d'accord. Qui m'a dit qu'il y a les Rolling Stones qui viennent en Israël. J'ai dit, je crois que le jour où ils vont mettre les pieds ici, il y a tout, il se passe quelque chose, d'accord. Je suis un ancien fan des Rolling Stones, bah, on est dans l'Arabie, d'accord. La Touma de la Touma, d'accord. C'est terrible, affreux terrible. C'est ma cousine qui a dit à ma femme, dis à Ron qu'il y a les Rolling Stones qui viennent en Israël. En tout cas, moi, je crois que les Rolling Stones viennent en Israël. Elle m'a connu dans ma période où j'étais fan, d'accord. Alors, elle restait non religieuse, hein. Alors, elle a dit, dis à Ron que les Rolling Stones, mais il s'en fout. Mais dis-lui quand même. Donc, ça, je m'en fous. Quoi, je veux dire. C'est très grave. C'est une grosse touma. Tov, pourquoi je disais tout ça? Alors. On me dit maintenant, donc je dis qu'il y a beaucoup de tout en Israël, c'est clair. Alors, donc on a encore besoin d'une armée. Mais regarde déjà le changement. Il y a, lors de la création de l'État, petit air de rien du tout, entouré d'ennemis terribles. Un an de guerre. Je crois qu'il y a eu 2000 morts, 2500, quelque chose comme ça. Terrible. Une guerre très difficile. Puis on commence à monter. Guerre des 6 jours. Miracle extraordinaire. Guerre de Kippour, miracle aussi. Miracle aussi, on est proche de la fin. On a un peu réussi à récupérer. Après les guerres de Gaza, guerre du Liban. On voit que lentement, il y a toujours moins de morts. Baruch HaShem, il n'y en a plus aucun. Et là, dernièrement, le monde de la Torah commence vraiment à fleurir. Ben, tu vois comment Dieu y règle les problèmes sans armée. Qui étaient nos grands ennemis? L'Égypte. Aujourd'hui, il y a un verset qui dit, une prophétie qui dit, Vesir Sarti Bemitzraim Bemitzraim. Je ferai quereller l'Égypte avec l'Égypte. Allez, zoup, hein?
Je ferai quoi?
je ferai quereller la bagarre entre l'Égypte et l'Égypte. Bah, ils sont en pleine guerre civile. Après, la Syrie. Notre plus pire ennemi, c'était la Syrie. L'Irak. L'Irak. Je vous racontais, c'est dernièrement, on m'a envoyé sur Internet qu'il y a eu une étude sur la qualité de vie des capitales, des grandes villes dans le monde. Sur 214 villes, la dernière, c'est quoi ? Bagdad. Bagdad. Et dans les télims qu'on lit, dans Tikkun Hatzot, d'accord, on maudit Bagdad, là-bas. Parce que c'est elle la responsable de la destruction du temple. Donc on voit qu'il y a un... Ça commence à... Le monde de la Torah est revenu en terre d'Israël. Il était à l'étranger, il est revenu. Il n'y a plus de grands de Torah à l'étranger. Il y a certainement les grands Talmid Chachamim, mais les grands, grands de Torah. Le dernier grand de Torah, c'était le Rav Moshe Feinstein. Il y a 30 ans, décédé il y a 30 ans. À New York, on l'a mis enterré ici, terminé. Depuis, il n'y a plus de grands. Tous les grands sont ici. C'est qu'on avait le Chazon Ish, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yisroel Aba Shaoul, le Rav Shach, le Rav Steinman, le Rav Shmuel Auerbach, d'accord, le Rav Kanievski, le Stipler, son père, Rabbi Israël, Yaakov Israël Kanievski. C'est ça, les grands noms étaient tous ici, tous les grands, grands étaient là. Il n'y a plus à l'étranger. La Torah est revenue ici, en terre d'Israël. Et les Chivotes avec. Donc il y a un monde de Torah qui va. Et tu vois que lentement, Baruch HaShem, les ennemis se désagrègent autour de nous. On n'est pas sorti encore du problème. Parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes chez nous. Le jour où, idéalement, et c'est idéal, parce qu'on est encore loin, si Machar ne vient pas, mais il vient. Mais s'il ne vient pas, d'accord, alors il y a encore du chemin à faire. Tant qu'il y a Datouma, il y a besoin encore d'une armée physique pour nous défendre. Mais il faut comprendre que cette armée physique, c'est un pis-aller. C'est parce qu'on n'a pas le choix et qu'il y a Datouma. Mais si, idéalement, plus il y aura de Torah, s'il n'y avait que de la Torah maintenant, et que des gens dans la Torah, etc., il n'y aura aucun ennemi. Aucun ennemi. On est le peuple de Dieu, de qui on a peur. Dieu dit « fais ». Si seulement on dit ça le mercredi ou le jeudi, passons le sidour, s'il te plaît. Le sidour. Voilà, merci bien. Il s'arrête là-dedans. C'est le télim du jeudi. Oui. Loami Shomei Ali. Si mon peuple m'écoutait, Dieu parle. Israël, Blachai Yahelechou. Le peuple d'Israël allait dans mes voies. Kim'at. En une seconde, Oivem Achnia, leurs ennemis, je les vainc. Valserem Ashiyavdi, et sur ceux qui leur faisaient du mal, je mettrai moi ma propre main. Dieu va s'occuper d'eux. Si seulement Israël m'écoutait, qui m'attend une seconde, il y a un problème, Dieu, aucun problème. La guerre du Golfe, on a vu comment 39 scuds tombent sur Tel Aviv. 39 scuds, 10 000 appartements détruits. Normalement, il doit y avoir des centaines, des milliers de morts. Un scud est tombé sur un réservoir de gaz. Vous connaissez l'histoire. Nachman Shai, c'était le porte-parole de l'armée. On ne savait pas si c'était des attaques au gaz ou à armes conventionnelles. On avait très peur et donc l'État a ordonné que tout le monde ait dans sa maison une chambre, Khader Atoum, on appelle ça une chambre étanche. Les fenêtres étaient faites avec des scotches comme ça, tout, des éponges, que les pas, hein, que lorsque tu vois le petit nuage vert de gaz qui se balade dehors, d'accord, que, une trouille terrible, d'accord, on avait une peur terrible. Alerte. En cours, on prend les enfants, tout le monde a le chambre. Le petit gars, la petite fille de 6 mois, on mettait dans un c'était un, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelait, c'est une sorte de bocal comme ça. Ouais, mais un truc. Elle hurlait, d'accord, elle comprenait pas ce qui se passait, un truc pour le gars ne rentre pas. Et moi, je coupe ma barbe, et pour mettre le truc, ça marche pas, etc. Ma fille commence à avoir des tics, on a de tout ça de pression. C'était terrible, on avait peur que, bon, on voyait déjà le nuage de gaz venir. Bon, pour finir, il n'a pas envoyé, Saddam Hussein, que Dieu le maudisse, n'a pas envoyé du gaz, il a envoyé des armes conventionnelles. Ok, au bout d'un moment, on continue à dormir, pépère, on n'a rien à faire de rien du tout, et on ne s'est pas visé à Jérusalem. Tel Aviv a été visé. 39 scuds. 350 kilos par scud. 350 kilos d'explosifs par scud. Dégâts énormes. 10 000 appartements détruits. Alors Nachman Shai, je vais commencer à raconter. Nachman Shai, c'est pas peur de l'armée. Quand il était à la chambre étanche, le seul contact avec l'extérieur, c'était la radio. La radio dit c'était les régions A, B, C, avec certaines régions, on savait quelle région on était, quand on était touché. ne sortez pas pour le moment, on vérifie qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez sortir. Donc, tout le Am Israël était suspendu à ses lèvres. Après la guerre, il a raconté. Il y a eu des miracles extraordinaires. Je ne peux pas raconter tout, pour des raisons de sécurité, mais je raconte un miracle. Il y a un réservoir de gaz au nord de Tel Aviv. Archi connu, cette semaine de Glilot, tout le monde le connaît, on le voit très bien, un gros machin comme ça. D'accord ? Si un scud touchait le réservoir de gaz, par les conduites de gaz, l'explosion se propageait dans tout Tel Aviv, elle partait dans les flammes. Et Saddam Hussein menaçait sans cesse, je vais détruire Tel Aviv dans les flammes. Il faut comprendre que la guerre du Golfe, elle a commencé au mois de février, mais dès la crise a commencé au mois d'août, lorsque Saddam Hussein est rentré au Koweït. Du mois d'août jusqu'en février, la star des nouvelles, c'est Saddam Hussein. Et tous les jours, on a un autre officier de l'armée qui vient, il dit « oui, il est comme ci, oui, il est comme ça », on parle de lui sans cesse. C'est un truc qu'on venait sans cesse en leitmotiv, on l'entendait sans cesse. Nous savons que lorsque Saddam Hussein menace, ce ne sont pas des menaces en l'air. Ce qu'il menace, il a même de le réaliser. On disait toujours « je vais détruire Tel Aviv dans les flammes ». On a très bien compris, parce que le scud, il touche le réservoir, plus de Tel Aviv, plus de Tel Aviv. Un scud a touché le réservoir de plein fouet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques heures auparavant, le préposé dans la salle de contrôle, il voit lumière rouge qui s'allume, fuite dans le réservoir. Bon, il prend sa lampe de poche, il va, regarde, rien du tout, tout va très bien. Il regarde la salle de contrôle, il voit la lumière qui s'allume, il dit « bon, je ne prends pas de risque, je vide le réservoir ». Le scud a exposé un réservoir vide. Une petite lumière s'allumait comme ça, on ne sait pas comment. Dieu n'a pas de problème. Dieu, il nous sauve. Nous, une seule chose. Si seulement t'écoutais ma voix, on est son peuple. Il demande qu'à nous donner tout, tout. Dans le même télim, c'est marqué, Achev Piha Bamaleu, ouvre ta bouche, rien que élargis-la, Achev, élargis ta bouche, je la remplis. Ah oui, c'est rare. Et c'est rare. Il y a les filles, il y a la paresse, il y a le qu'est-ce que j'en sais, moi, ça ne manque pas du etc. Il faut se battre contre les Sarah et on gagne des millions de milliards de millions de milliards. Donc c'est pour répondre à ta question. C'est pas automatiquement que si demain le monde orthodoxe se met à la tête de l'État, que tout est réglé d'un coup de baguette magique. Il faut que le niveau spirituel du peuple d'Israël soit haut. Et là, on verra des grands miracles de Hachem. Mais tout cela est très théorique. Normalement, ce que nous projetons, ce qui est projeté là-haut, c'est que Moshiach arrive très très bientôt. C'est une question de...
Je me demande si demain...
J'ai pas dit. De quoi?
Si le monde... Enfin, un président Haredi monte au pouvoir, ce qui est impossible avant Moshiach, mais disons, est-ce qu'ils auraient besoin d'avoir une armée?
C'est sa question. Alors j'ai dit oui. Parce que c'est pas parce que tout à coup tu as maintenant une direction de l'État qui est, on va dire, orthodoxe, que tout le monde est tzadique et tout le monde est bien et la spiritualité est son problème. Ça ira certainement mieux. C'est proportionnel. Tant qu'il y a de la touma, ça veut dire de l'antithèse de la sainteté dans le peuple d'Israël, de l'impureté, des péchés, alors tu as besoin encore d'une certaine action physique. Mais du moment où la spiritualité arrive au niveau suffisant pour Dieu, il dit « Ok, laissez-moi, c'est moi qui allez étudier, je m'occupe du reste. » Voilà, dans ta chaîne.
Parce que s'il y a un million de... Il y a combien de barouim? À peu près, Avrechim, Rabbanim, on est un million. Après, non, 800 000, 500 000.
On va dire, je ne sais pas, pas tout le monde est rabe, etc. Orthodoxe, il y a bien 800 000, ouais.
Donc, qui étudie...
Un million, peut-être.
Qui étudie...
Qui étudie 200-300 000.
C'est-à-dire que c'est 200-300 000, si on fait le rapport quantitatif de Berkoukotai,
oui.
C'est-à-dire qu'en fait, 300 000, ils protègent tout Amisraël, en fait.
C'est clair. Ce pays est un miracle.
C'est-à-dire que même si d'autres ne sont pas au niveau de pouvoir avoir cette spiritualité, les 300 000 l'ont, et donc...
Il faut que tu comprennes une chose. Nous sommes des miraculés. Le peuple d'Israël, pendant l'exil, vit sans miraculés. Arrivé 2500 ans à survivre dans les conditions d'exil, tout à fait anormal. Et d'après les projections, même revenir en terre d'Israël, d'après les projections politiques qu'il y avait il y a 30-40 ans, c'était clair, même actuellement. Enfin, je me souviens, il y a 5-6 ans encore, dans les projections, d'accord, de toutes les différentes intelligences de services dans le monde, la CIA, la sécurité du territoire, tout ce que tu veux, d'accord, c'est clair qu'Israël, ce petit îlot parmi des centaines de millions d'Arabes qui l'entourent qui veulent sa fin, et des milliards de musulmans qui l'entourent, des milliards, enfin, bien plus qu'un milliard qui l'entourent qui veulent sa fin, il n'y a aucune chance. Aucune chance. C'est impossible qu'on survive. Et ça, ils le savent. Pour eux, Israël, c'est une histoire de 10, 20, 30 ans maximum, n'existe plus. Et Dieu montre exactement le contraire. Et comment ça le montrer ? Grâce à quoi ? Grâce à Dieu. Et Dieu, c'est grâce à quoi ? Grâce à... On fait sa volonté.